À voix nue. Cette semaine, Simone Douek s'entretient avec Donatien Laurent. Aujourd'hui, la première Bretagne. Donatien Laurent, vous êtes ethnologue et le champ de vos activités se situe depuis vos débuts dans ce métier en Bretagne, où nous vous retrouvons d'ailleurs chez vous aujourd'hui. Qui dit ethnologie dit terrain, et vous-même vous insistez beaucoup sur cet aspect de l'activité de l'ethnologue. Être à l'écoute de la parole d'autrui a toujours revêtu pour vous une grande importance dans l'élaboration de vos théories et de votre pensée. Et c'est pourquoi, à partir des années 60, vous avez sillonné les routes de Bretagne avec deux outils indispensables. La connaissance de la langue bretonne, et puis le fameux Nagra, que nous connaissons bien, avec lequel vous avez enregistré récits et contes chantés, poèmes épiques ou lyriques. Votre parcours pour en arriver là a été presque simple. Le presque est un peu chargé, sans doute nous y reviendrons. Études de droit, de sciences politiques, d'anglais, de linguistique générale et enfin d'ethnologie. En 1960, sur la proposition d'André Leroy-Gourhan, vous rejoignez une équipe de chercheurs du CNRS pour mener une grande enquête pluridisciplinaire en pays bigoudin. 30 années plus tard, vous êtes directeur de recherche au CNRS pour tout le champ de la tradition orale bretonne. Vous dirigez ensuite pendant 12 ans le CRBC, Centre de recherche bretonne et celtique de Brest, à l'Université de Bretagne occidentale. C'est cet itinéraire que nous parcourrons avec vous, comme vous m'avez dit lorsque nous avons regardé ensemble une bibliographie vous concernant. Oh, j'ai fait tout ça. Eh bien oui, vous avez fait tout cela, vous avez rencontré des informateurs, conduit des travaux, publié des articles ou des livres. Vous êtes arrivé à une connaissance profonde de la Bretagne. Et d'ailleurs, on pourrait penser que ce qui a contribué à ce degré de connaissance, eh bien, c'est d'être vous-même un Breton, né en Bretagne, avec l'enfance régionale dont on pourrait vous habiller. Or, il n'en est rien. Jusqu'à vos années d'études à l'université, vous avez été parisien, et qui plus est, vous êtes né à Belfort.
Absolument, oui. Je suis né à Belfort, mais un peu par hasard, parce que mon père était ingénieur à l'Alstom, qui était à ce moment-là situé à Belfort. Mais je suis de parents bretons, père de Brest et mère de Nantes. Et dès mon enfance, la Bretagne a toujours été le lieu de mes vacances, pour trouver les grands-parents de chaque côté, côté paternel et maternel. Et également, pour moi, un sujet de découverte. Et j'avais la chance, justement, que mon père lui-même, ce soit... Mon père est brestois, né à Brest. Et il s'est, lui aussi, très tôt intéressé à la Bretagne. Et il a, toute sa vie, acheté des livres sur la Bretagne, ce qui fait que j'avais à la maison même, sans me déplacer, une bibliothèque dans laquelle je trouvais tout ce qui pouvait m'intéresser un petit peu dans tous les domaines.
Alors, vous qui parlez de tradition orale et qui avez travaillé tout le temps sur la tradition orale, on ne peut pas dire que ce soit la tradition orale qui vous ait amené la Bretagne.
Non. Alors, la tradition, au contraire. La tradition orale, l'étude de la tradition orale m'est venue assez vite parce qu'effectivement, ce qui m'intéressait, je me suis très vite intéressé aux problèmes qui, dans les années 60, était un problème concernant directement la Bretagne et qui agitait beaucoup les esprits, avec des positions très très différentes. C'était le livre de Lavigne Marquet, le Barça's Braise. Et j'avais chez moi toute la littérature concernant la culture bretonne.
Et l'imaginaire breton. Voilà. Mais vous aviez dans l'enfance, comme ça, des images qui vous avaient marqué de la Bretagne, des paysages, des...
Ah oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. D'abord, la découverte de la mer. Mon père avait acheté une maison au Conquet, le Conquet près de Brest, là.
Et en face de l'île d'Ouessant.
C'est ça, en face de l'île d'Ouessant. Le Conquet est un ancien port... du 14e, 15e siècle, avec beaucoup de maisons restées de cette époque-là. Et, bon, et puis, au Conquet, la boulangère, le bistrot à côté de chez nous, etc. tout cela par les Bretons à cette époque-là. Donc, c'est une... tout de suite, j'ai été attiré par ça. Mon attirance pour la langue a tout de suite été accolée avec ces paysages, avec tout ce que la Bretagne peut enfermer en matière d'archéologie, par exemple, les mégalithes et tout ça. Mais tout ça faisait pour moi un ensemble qu'on ne pouvait pas détacher. On ne pouvait pas détacher une pièce de l'autre, si vous voulez. Ce qui fait que j'étais pas braqué sur une période de l'histoire, j'étais braqué sur toute l'histoire de la Bretagne depuis ses débuts mégalithiques. Et aussi étais-je bien intéressé lorsqu'on a découvert que l'un des premiers hommes préhistoriques avait été trouvé justement en Bretagne. Du côté de Pont-Croix, de Plozévet, on a trouvé là le plus ancien spécimen d'Australopithèque, avant d'en trouver qui n'avait à cette époque-là son équivalent que dans le sud de la France,
voilà, c'est ça,
ou en Chine. Voilà, donc c'est vrai que la Bretagne m'a tout de suite intéressé dans toute une vaste...
Voilà, dans tous ces domaines, finalement, il n'y avait pas particulièrement de domaine vers lequel vous penchiez.
Non,
ce n'est
pas par mes études, par exemple, en histoire, etc., ou en lettres, que j'y suis venu. J'y suis venu par la connaissance du pays, par l'admiration, effectivement, des paysages, des églises, des manoirs, etc. Et effectivement, tout ça sont des choses qui... C'est probablement le retard de développement de la Bretagne qui fait qu'on n'a peut-être pas détruit aussi vite qu'ailleurs les témoins du passé. Mais c'est vrai aussi que, bon, d'une part, au moment du romantisme, effectivement, on a au contraire cherché à mettre tout ça en avant, mais assez vite, dans une seconde période, au contraire, c'était devenu des choses, les Bretons, des gens qui n'ont pas de culture, etc. Enfin, on a plutôt, au contraire, cherché à faire du neuf et à effacer tout le passé, alors que moi, personnellement, j'avais envie, au contraire, de tout rassembler. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment la tradition orale, et non pas, justement, tout ce que les gens pouvaient raconter, qu'ils avaient lu dans un livre, tout ça, non, ça ne m'intéressait pas à ce que je voulais vraiment. Et je crois que la qualité de la Bretagne, justement, c'est d'avoir échappé, peut-être, c'est idiot de dire ça, et c'est dangereux de dire ça, mais d'avoir échappé à une scolarisation trop précoce, mais non, au contraire, ils ont toujours été... Ils étaient en Bretagne... On a tout de suite, évidemment, été scolarisés, sachant lire, etc., dans la langue française. Mais à côté de ça, le breton, qui était la langue d'échange naturelle entre les gens, c'est une langue qui pouvait s'écrire, qui s'écrivait pour l'Église, par exemple, mais que les gens ne savaient pas écrire. En tout cas, il n'y avait pas une littérature, il n'y avait pas de livre qui offrait la possibilité de s'informer sur...
De se plonger dans cette histoire.
Et dans un sens, pour moi, c'était presque une chance, dans la mesure où ce que j'apprenais des gens, je savais qu'ils ne l'avaient pas pris dans un livre.
Alors, avant de continuer, Donatien Laurent, peut-être sur cet imaginaire breton, je voulais revenir à votre entrée dans la Bretagne, quand on parle de cette première Bretagne que vous avez découverte. Et on a l'impression que dans votre jeunesse parisienne, la Bretagne était très très présente. Vous étiez très imprégné de Bretagne et vous aviez beaucoup d'activités ou d'associations qui vous...
Oui. Alors, effectivement, si vous voulez, bon, je viens de dire que dans ma famille, effectivement, la bibliothèque, le piano pour ma mère. Ma mère était musicienne. Enfin, bon, personnellement, elle était donc de Nantes. Et dans la petite rue où habitait mon grand-père et où elle est née, juste de l'autre côté de la rue, il y avait Paul Lamiro, je crois, habitait là. Je crois que c'est Paul Lamiro, enfin bon, qui lui-même s'est intéressé à la musique bretonne et a fait un des premiers recueils de musique bretonne. Bon, Donc, elle s'était intéressée elle-même à ça, et lorsqu'elle a rencontré mon père, mon père a développé ça un peu, lui a montré tout l'intérêt de ça, et ma mère, j'ai toujours entendu ma mère jouer au piano en chantant des mélodies bretonnes de Borgo de Coudray, de Maurice Duhamel, de tous les bretons, les musiciens bretons de cette première époque, dans les années 1930, enfin, ou même 1880, le recueil de Borgo de Coudray, par exemple, est plutôt de 1880. Donc, c'est également d'une musique qui m'a intéressé, qui m'a imprégné, et je me sentais tout à fait relié à cette musique. Ensuite, j'ai fait des études de musique, j'ai poussé un peu plus loin, oui, en étudiant les modes de la musique bretonne, par exemple, avec les livres qui avait consacré Maurice Duhamel, qui était une de mes grandes faits de lecture, si vous voulez, il est allé, Maurice Duhamel, qui était rennais, je crois, et il a fait, au début du siècle, au début du XXe siècle, il a refait un petit peu un voyage en Bretagne pour rechercher les mélodies des recueils de Luzel. Mmh. Luzel, qui était le grand adversaire de la ville marquée, avait publié un recueil qui a été montré un peu comme voilà les vraies chansons bretonnes des Monsieur de la ville marquée, tout ça c'est pas vrai, ça a été réécrit, etc. Bon, ou même inventé complètement. Et donc, comme Luzel n'avait accordé aucune importance à la musique, contrairement à la ville marquée qui, lui, dès le début, donne la musique de ses chants. Donc, Maurice Duhamel, dans les années 1910, a parcouru la Bretagne intérieure pour rechercher les mélodies des chants de Luzel. Bon, c'est également ce que j'ai fait moi aussi, si vous voulez.
Après, voilà. On va en parler. Vous avez appris la musique.
Alors,
vous avez appris un instrument. Vous avez été instrumentiste. Ça s'est fait à Paris.
Oui, mais si vous voulez, bon, j'ai appris la flûte. Mon père avait acheté... Quand j'étais petit, justement, j'avais vu à la maison, il y avait un petit biniou ancien, le petit biniou très aigu avec un seul bourdon, et une bombarde que mon père avait achetée avant même de se marier, je crois. Et donc, il était là. Bon, et puis, j'ai appris un petit peu tout seul la flûte, le pipeau, pour ensuite me mettre à jouer... de la bombarde, puis de la cornemuse, et on verra ça. Je suis parti en Écosse apprendre la cornemuse avec vraiment les grands maîtres de l'instrument. Je suis allé à l'île de Skye pour essayer de retrouver les débuts de la musique de bagpipe écossaise. Dans ses débuts, donc, puisque c'était à l'île de Skye, au château de Dunvegan. Enfin, bon, tout ça, ça a été mon enfance complètement à côté de l'école. Parce qu'à l'école, on ne parlait pas de ça, on n'écoutait pas ça. L'histoire, ce n'était pas l'histoire de Bretagne, évidemment. Bien moins que maintenant. Maintenant, on peut, éventuellement, mais à cette époque-là, il n'était pas question. Pas plus l'imaginaire, les contes, les légendes, tout ça, non. Tout ça n'avait pas...
Mais en fait, on a l'impression que les associations bretonnes, au moment de votre jeunesse ou de votre enfance, étaient assez actives à Paris.
Alors, elles ont toujours été très actives.
Donc, associations culturelles,
elles,
en
elles
fait.
Elles sont toujours, oui. Et effectivement, je me suis tout de suite, très jeune, j'ai été... Il y avait un groupe de scouts bretons qui s'appelait les scouts Blaymore. Je me suis donc inscrit dans ce groupe-là, et dans ce groupe, effectivement, toutes nos activités étaient consacrées à la Bretagne. On apprenait les danses bretonnes, on chantait des chants bretons, etc. Ce qui fait que, dès cette époque-là, j'ai été...
Vous avez plongé dedans, quoi.
J'ai plongé dedans, et je dois dire que oui. Et puis j'ai surtout partagé peut-être tout ce que j'avais avec, justement... c'était intéressant parce que Paris étant la plus grande ville de Bretagne, comme on le sait, tout le 6e et le 14e arrondissement, c'était des familles bretonnes, en général extrêmement pauvres, c'est dans des quartiers complètement délaissés, la rue de la Gaîté et tout ça, c'était en plein dans ce quartier-là. Et avec mon frère aîné, on allait essayer de déboucher des jeunes pour grossir nos rangs, donc de louveteaux, de scouts, etc., puis ensuite de routiers. Donc, quand j'ai commencé, il n'y avait que les routiers de Blimor, c'était les routiers, c'est le plus âgé, mais on a fondé un groupe de scouts, dont mon frère a pris un peu, il s'est beaucoup investi, plus que moi, parce que moi, ce n'était pas tellement mon style.
Mais est-ce qu'à travers tout ça, vous forgiez une identité bretonne?
Oui,
particulièrement.
C'est-à-dire que si, je me suis toujours. Je vous dis, ça s'est fait de soi-même par ma famille, donc pas du tout par.
Par les associations.
L'école, mais par ma famille et par quand même mes lectures. Et puis très vite aussi, justement, bon, l'école pratique d'autres études, par exemple, à la Sorbonne, j'y suis allé aussi très tôt. Aux Archives nationales, j'y suis allé aussi très tôt, avant l'âge requis, parce que je voulais m'informer sur ceci, cela, etc.
Ouais. Et alors, pour continuer, peut-être, le tableau de cette Bretagne parisienne, il y avait dans tout ça aussi, j'imagine, tout l'imaginaire, alors, tout l'imaginaire breton, tout l'imaginaire des druides, par exemple, l'imaginaire celtique, tout ça. Est-ce que ça existait, dans votre pensée, à ce moment-là, je veux dire?
Pas dans ma pensée, enfin, je veux dire que, bon, par exemple, Ossian... les mouvements celtiques, etc., ça ne m'a pas intéressé dans la mesure où, justement, où je ne retrouvais pas une vraie pensée, un vrai témoignage sur ce que les gens pensaient. Ça ne m'intéressait pas tellement. Surtout, effectivement, Ossian, bon, avec tout le mouvement océanique et tout ça, ça pouvait mettre en valeur les Celtes, c'était bon. Mais par contre, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais effectivement, ça doit être complètement fou. Enfin, bon, de toute façon, c'était écossais. Je suis allé en Écosse très tôt aussi, mais ce qui m'intéressait en Écosse, effectivement, c'était plutôt la cornemuse, me former auprès des maîtres de la cornemuse et tout ça. Ou bien ce qui m'intéressait, c'était le gaélique, par exemple, la langue gaélique, les liens entre le gaélique et le breton, etc., le gallois, tout ça. Bon. Mais les Celtes... m'intéressait uniquement dans la mesure où, effectivement, la Bretagne, par sa langue, était effectivement, et ça c'était évident, cousine du Pays de Galles, cousine toute proche du Pays de Galles, encore plus proche de la Cornouaille, mais en Cornouaille, la langue était morte depuis 1804 ou un truc comme ça. Dernière locutrice de Cornic est morte en... Mais Napoléon s'était intéressé à elle, justement. Donc, si vous voulez, il y a à l'époque romantique un intérêt pour ça, mais c'est quand même des choses qui disparaissent. Et je me suis senti effectivement cousin ou frère des Gallois, des Corniques, moins des Corniques parce que la langue était morte, mais des Irlandais, des Écossais. J'ai appris les danses écossaises. J'allais avec ma sœur tous les vendredis au groupe de danse écossaise où je me suis mis à apprendre les danses écossaises également. J'ai eu une période où, effectivement, je basculais plus sur l'Écosse à cause de la cornemuse. Mais, malgré tout, c'est la Bretagne qui est restée
Et par exemple, la culture druidique, les druides qui refusaient les cris et qui avaient choisi l'oralité, ça ne vous...
Si, alors, ce qui me passionnait, c'était surtout... je veux dire, moi, je ne sais pas faire tourner les tables, je ne sais pas faire revenir des druides de l'ancien temps, mais les druides modernes, non. Écartez-vous de moi, non. Ça m'a jamais tenté le moins du monde parce que, si vous voulez, c'est curieux.
Là, je parlais des druides de l'ancien temps, des druides archaïques.
Ah oui, cette culture, effectivement. Alors, la philosophie druidique tel que Pline, par exemple. Pline, l'écrivain latin Pline. Et c'est le seul, c'est le principal qui nous fasse comprendre la philosophie des druides. Et c'est passionnant ce qu'il dit, justement. C'est grâce probablement à Pline aussi que j'ai mieux compris ces rapports entre la Chine et la Bretagne sur le plan du yin et du yang, par exemple. Enfin bon, des écrivains latins comme Pline, comme César, parce que César, dans son... La guerre des Gaules, a donné plein d'indications, effectivement, sur... c'est un type extraordinaire qui s'intéressait aux gens, etc. Enfin, tous ces groupes de Gaulois, ces tribus gaulois dont ils donnent les noms, c'est des noms qui éventuellement sont encore vivants ici. Moi, j'ai des copains qui ont des noms bretons. C'est pour ça que la toponymie et l'anthroponymie m'ont beaucoup intéressé. Il y a encore des noms aujourd'hui dont le nom breton ne peut s'expliquer que par le Gaulois, si vous voulez, oui, ou par un breton qui est vraiment le vieux breton. Et on les retrouve dans les premiers écrits au 8e, 9e siècle, 10e siècle, mais ils ont disparu ensuite.
Mais ces druides qui refusaient d'écrire nous ramènent à l'oralité et à votre passion.
Ça me ramène à ça, mais oui, mais surtout pas le mouvement druidique actuel.
D'accord, on est bien d'accord.
Non, mais effectivement. Effectivement, quand c'est César qui dit que ou Pline justement, enfin je ne dis plus lesquels les deux, qui dit qu'il refusait l'écrit pour justement à cause de la mémoire, parce qu'il voulait que les gens se transmettent oralement les choses, parce que ça se grave dans la tête, alors que si on a un livre, on peut oublier tout, on reprend son livre et puis on regarde, etc. Non, ça m'intéresse pas. Et justement, j'ai été sidéré de retrouver des témoins, des vieilles personnes par exemple, qui m'ont appris des choses qui étaient réputées avoir disparu depuis deux siècles, ou même n'avoir jamais existé.
J'ai dit, Donatien Laurent, que votre parcours avait été presque simple, et peut-être que c'est le moment d'expliciter qu'est-ce qu'il y a dans ce presque, c'est-à-dire l'accident que vous avez eu quand vous étiez jeune, quand vous aviez 21 ans.
C'était le 24 avril 57, je crois. J'étais en vélo, donc, et j'ai été heurté par un camion. Et le camion m'a, d'après le constat des policiers, si vous voulez, on m'a retrouvé à 18 mètres du point de choc. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu mes 18 jours de coma à Nantes. Et je me suis réveillé, donc, et je me rappelle mon réveil, parce que j'étais donc à Nantes à ce moment-là, et j'entends une voix brutale et assez désagréable me disant « Réveillez-vous ! Réveillez-vous !» Je me suis réveillé à ce moment-là, et j'ai vu devant moi le médecin, blouse blanche, que je ne connaissais pas, puis j'ai vu ma mère, et puis peut-être mes frères et sœurs. Enfin. Et donc, pour ça, parce que le médecin avait diagnostiqué que si je me réveillais, je serais aphasique et je n'aurais plus de mémoire. Enfin bon. En tout cas, que je serais aphasique. Et il me dit qui est cette personne, il me montre ma mère. Et alors ça a été un souvenir très cruel pour ma mère, parce que j'ai dit « Madame Laurent ». Je ne savais pas qui me posait la question, mais je vais quand même pas lui dire « c'est maman ». Donc, enfin bref, bon, donc j'étais pas aphasique apparemment.
En tout cas, Donatien Laurent, cet accident vous a mis sur le chemin de votre activité.
Absolument, cet accident, j'y ai vu finalement... une bénédiction, une veine de pouvoir enfin, avec la caution de des plus grands médecins, puisque c'est le professeur Petit du Taillis qui avait dit bon, c'est pas la peine qu'il continue ses études, il ne pourra plus les reprendre. Et donc, je me suis dit, bon, vive la liberté, je vais enfin pouvoir faire ce qui m'intéresse, et je n'aurai pas à donner des gages à l'université. Bon, ce qui n'empêche que toutes mes études universitaires, je les ai repris après, mais dans le sens qui me convenait, c'est-à-dire, donc, effectivement, j'ai basculé vers l'ethnologie, ce que je n'ai pas fait avant.
Et c'est après que vous avez donc pu acquérir votre outil de travail principal, ce Nagra, donc ce magnétophone. Alors, Nagra, professionnel, très ça. Cher.
Alors, ce Nagra, très cher, je n'aurais jamais pu me le payer avant, et c'est mon accident qui m'a permis, justement, outre cette liberté nouvelle, de m'acheter enfin l'appareil inabordable, mais excellent, qu'il me fallait pour pouvoir enregistrer sur place, sans me brancher sur l'électricité, enregistrer avec une qualité imparable, ces personnes dont je savais qu'ils étaient les derniers. On dit depuis le 18e, fin 18e, début 19e, nous sommes les derniers à entendre ça, c'est fini, c'est mort, etc. Heureusement, ça a duré quand même jusqu'à l'apparition des appareils pour enregistrer. Et j'ai eu la chance de pouvoir justement en faire un suivant mes besoins.
En faire faire un par le constructeur même ? Par le constructeur même,
c'est
du
Nagra. Par Kudelski, en passant par un ami. Et donc, j'ai demandé quatre vitesses qu'il n'avait pas fait avant, mais qui étaient, c'est-à-dire, au lieu d'avoir 2,19 ou 2,38, d'avoir une vitesse plus lente, le 4,75, dont je pensais qu'il me permettrait de le laisser comme ça pendant 2 heures tourner, sans que je m'occupe
de
changer la bobine et de rester dans un rapport avec l'interlocuteur, avec le chanteur, par exemple.
Sans l'interrompre.
C'est ça. On est tous les deux là, il n'y a personne d'autre. On peut vraiment se confier l'un à l'autre et dire des choses qu'on n'oserait pas dire ou qu'on n'a pas le droit de dire à l'extérieur, si vous voulez. Donc, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir, grâce à mon accident en particulier, d'avoir mon appareil et de pouvoir en faire à plein temps mon outil de travail et de réflexion.
C'était À Voix Nue. Simone Douek s'entretenait avec Donatien Laurent. Réalisation, Gilles Davidas. Prise de son, Chantal Nouvelot. Demain, langue et mémoire.